pour s'en parler tout l'été.
10h41 dans le Point de Max à Boulevard 102.1, ensemble jusqu'à midi. Dans l'actualité aujourd'hui, ce qui retient le plus l'attention, c'est ce nouveau sondage Léger, le journal TVA. On est en politique provinciale. Le Parti québécois de Paul Saint-Pierre Plamondon récolte 30% des intentions de vote. Le Parti libéral du Québec perd 3 points, arrive à 24% au deuxième rang. La CAQ de Christine Fréchette, qu'on essaye de nous dire que ça s'appelle l'équipe Christine Fréchette, c'est une perte aussi d'un petit point. Là, on est à 20%. Les conservateurs d'Éric Duhaime restent stables à 13%, montée de 3 points pour Québec solidaire. On s'explique un peu mal ce qui s'est passé de ce côté-là. On est à peu près dans la marge d'erreur, là, fait que c'est pas non plus une tendance qui risque de nous mener à un gouvernement de Québec solidaire. Mais dans tous les cas, le portrait actuel nous mènerait à un gouvernement du Parti québécois minoritaire. Pour analyser les résultats de ce sondage-là, l'ami Georges Mercier, analyste politique, est au bout du fil. Salut Georges.
Salut Max.
Penses-tu qu'on s'en va là, un gouvernement péquiste minoritaire comme le voudraient les résultats de ce sondage-là?
Ben écoute Max, ça en a tout l'air, d'autant plus que je me suis amusé à regarder les dernières élections là, sur plusieurs décennies. Puis en général, là, le parti qui est favori un an avant l'élection finit par l'emporter, minoritaire ou majoritaire. Donc ce serait pas du tout surprenant si on avait bel et bien un PQ minoritaire, d'autant plus, puis ça faut vraiment le dire, que oui, là on a 30% pour le PQ, 24% pour les libéraux, 20% pour la CAQ, mais c'est pas ce pourcentage-là au niveau de la population en général qui compte vraiment. Celui qui compte vraiment, c'est chez les francophones, parce que le vote des libéraux, il est concentré à Montréal. Et chez les francophones, le PQ est nettement en avance. Donc, à moins qu'il y ait un événement spectaculaire, que les autres partis parviennent, par exemple, à faire croire aux électeurs que la question de l'urne, c'est vraiment un référendum, ce serait extraordinairement surprenant, aujourd'hui en tout cas, que le PQ ne forme pas le prochain gouvernement.
Il y a un chiffre que tout le monde pointe du doigt, c'est celui qui dit qu'une personne sur deux peut encore changer d'idée. Une personne sur deux dont le vote là, est encore flexible. À quel point tu as l'impression que ça peut tant bouger que ça dans les prochaines semaines avec la campagne qui va nous mener à l'élection?
Ben, sincèrement, moi, je ne pense pas que ça peut tant bouger que ça. Je sais que la ligne chez plusieurs analystes aujourd'hui, c'est de dire une élection extraordinairement ouverte, puis on peut s'attendre à des rebondissements. Tu sais, quand vous répondez à un sondage, puis on vous demande est-ce que votre vote pourrait changer, on fait pas la distinction entre ceux qui disent, par exemple, qu'ils ont 10% de chances de changer de vote, puis ceux qui disent qu'ils ont 50% de chances de changer de vote. Donc, premier élément, c'est pas clair que tout le monde est aussi prêt à changer d'avis que d'autres. Autre élément, faut pas oublier que s'il y a des caquistes qui pourraient peut-être aller vers le PQ, puis des péquistes vers la CAQ, souvent, ces fluctuations-là dans le vote, elles peuvent se canceller elles-mêmes. Fait qu'on peut avoir beaucoup, beaucoup de variations au niveau individuel, mais rester avec les mêmes totaux au niveau de l'ensemble des partis. Donc, je ne sais pas si c'est très significatif que plusieurs Québécois se disent ouverts à changer d'avis. Mais en tout cas, bon, c'est la ligne qu'on emploie aujourd'hui chez nos collègues.
Tu parlais en ouverture du fameux vote francophone, parce qu'en effet, c'est ce qui va venir compter beaucoup, les votes qu'on va aller chercher, par exemple, dans les régions. C'est ça qui va nous amener des victoires dans les circonscriptions et donc des députés, et donc peut-être un gouvernement, puis après ça, la différence entre minoritaire et majoritaire. Les libéraux qui passent de 20% d'appui chez les francophones, ce qui était déjà quand même bas, là, à 13%. Charles Milliard l'a donc bien échappé cet été.
Ah non, mais écoute, pour le dire dans leur langage, dans le langage des supporters massifs du Parti libéral, c'est une vraie joke, là. À 13% d'intention de vote chez les francophones, le Parti libéral, on peut quasiment considérer que c'est un non-parti politique à l'échelle de la province. Bien sûr que le PLQ a ses bastions anglophones autour de la région de Montréal, dans le West Island, des gens qui votent pour le Parti libéral, peu importe le candidat qu'on place devant eux, parce qu'ils sont souvent des électeurs monosujets, là. On vote pour le PLQ parce qu'on est anglophone ou non francophone, puis ils vont défendre nos intérêts. Mais à 13%, Charles Milliard n'a pas du tout réussi à faire comprendre aux Québécois francophones, qui forment encore, à ce que je sache, la majorité du Québec, qu'il y avait un vrai souci pour les francophones au niveau du Parti libéral. C'est peut-être parce que peu importe ces annonces de l'été, d'ailleurs, sa seule pub de l'été, ça a quand même été de nous rappeler qu'il existait, ce qui déjà augurait mal pour lui, ben, c'est que dès qu'il s'agit de défendre la langue française, ben, il y a de la misère à être crédible à ce niveau-là. Donc, si vous avez le choix en tant qu'électeur francophone entre le PLQ ou la CAQ, qui propose des politiques gouvernementales assez similaires, hein, au final, c'est beaucoup plus rassurant d'aller vers la CAQ parce qu'au moins, là, vous avez le petit bonus national. Et vous savez qu'on tient, que la culture vous tient à cœur. Pour le Parti libéral du Québec contemporain, c'est beaucoup, beaucoup moins clair, cette affaire-là.
Le sondage Léger, le journal TVA, nous parle des enjeux les plus déterminants du choix de vote. Donc, on demandait aux gens, bon, parmi les enjeux suivants, lesquels influenceront le plus pour votre vote lors de la prochaine élection provinciale au Québec. Puis en tête de liste, on a tout le temps à peu près les mêmes affaires, là. Santé, services sociaux, coût de la vie, pouvoir d'achat, logement abordable. Puis là, tu descends, puis là, maintenant, tu tombes dans l'éducation, fonctionnement de l'État, la langue, la culture, l'immigration. Puis tout en bas, là, dans les derniers choix, t'as la tenue d'un référendum sur la souveraineté du Québec qui arrive très, très bas. C'est une bonne ou une mauvaise chose pour le PQ que ça influence pas le vote tant que ça des gens, le fait d'avoir ou pas un référendum?
Ah, mais c'est une excellente chose pour le PQ. Après, on va quand même remarquer, Max, qu'à 30% d'intention de vote, il y a la souveraineté à 30%, l'électorat du PQ correspond pas mal aux électeurs qui voteraient oui à un référendum. Donc, il y a une base ici pour le Parti québécois qui est suffisante, considérant les différences entre les différents partis pour former le gouvernement. Après, il y a quand même un paradoxe. On a un Parti québécois qui, de la manière la plus claire et la plus ouverte depuis, j'ai envie de dire, 20 ans, veut tenir un référendum et pourtant qui trône au sommet des intentions de vote, alors que c'est pas du tout l'enjeu prioritaire pour les Québécois et à 8%, même pour les électeurs du Parti québécois. Hein? Donc, on dirait que comme pas le lien, c'est pas fait dans la tête des électeurs. Puis j'ajouterais que du côté du PQ, si on regarde la communication politique des derniers jours, depuis le retour de vacances de PSPP, on ne veut pas le mettre de l'avant plus qu'il faut, le référendum. Au contraire, ce qu'on cherche à faire en ce moment, c'est de se présenter comme un bon gouvernement, un gouvernement compétent, professionnel, technocratique à la limite, qui va offrir des solutions aux Québécois. Mais on parle de moins en moins de l'enjeu référendaire.
Puis c'est drôle parce qu'il y a un texto qui est entré au 88-971-1021 puis il s'était jamais passé à réagir. Quelqu'un qui dit « Sérieux, comment tu peux voter PQ sans lier ça au référendum? C'est comme dire la cour arrière du Festibiaire, c'est la meilleure place pour boire de l'eau. Qui va là pour boire de l'eau? C'est clair que voter PQ, c'est envisager un référendum. » Puis pourquoi ce message-là me fait sourire, c'est que on a donc bien peur d'une question pour décider ce qu'on veut. T'sais, voter pour le PQ, oui, ça peut vouloir dire qu'on va avoir un référendum, mais ça, on le dit, le référendum, c'est la question pour décider si on peut se séparer. On a donc bien peur d'une question, Georges.
Ouais, c'est un bon point. Après, je suis pas tout à fait sûr, moi, que voter pour le PQ, c'est au même moment voter pour un référendum. D'abord, parce que peut-être, une fois arrivé au pouvoir, les péquistes jugeront que c'est pas souhaitable de déclencher un référendum qu'on perdrait. Donc, c'est pas clair qu'il va y en avoir un référendum, même si le PQ arrive au pouvoir. Et peu importe ce que nous dit aujourd'hui Paul Saint-Pierre-Plamondon. Deuxième élément, on peut voter pour le PQ et voter non par la suite au référendum. Puis après, je pense qu'il faut, si on fait l'historique de la politique québécoise dans les dernières années, là, il y a un moment où le Parti québécois était pas mal le seul parti qui pouvait récolter les suffrages des électeurs déçus de la coalition Avenir Québec. Le Québec solidaire n'était pas sérieux, on n'était pas sûr du leadership, on n'arrêtait pas de parler de politique identitaire qui ne plaisait pas aux Québécois. Le Parti libéral n'avait pas vraiment de chef pendant longtemps, donc c'était pas facile de voir pour qui on votait si on votait pour eux. Je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs qui sont tournés vers le PQ à ce moment-là, dans les deux dernières années, et là, leur vote s'est solidifié à un moment où la question de l'indépendance n'était pas du tout dans l'esprit des Québécois. Donc, on a un vote quasiment pas résiduel, mais quasiment un vote de protestation pour le Parti québécois qui désormais s'est solidifié dans un contexte où c'était pas la question référendaire qui comptait le plus.
Paul Saint-Pierre-Plamondon qui publie ce matin une lettre ouverte dans le National Post. C'est titré « Anglo-Quebecers deserve better government ». Est-ce que ça donne vraiment quelque chose au PQ puis à Paul Saint-Pierre-Plamondon de mettre du temps puis de mettre de l'énergie sur le vote anglophone? Puis dans un sens, chapeau à Paul Saint-Pierre-Plamondon de le faire puis de travailler comme ça, à vouloir unifier tout le monde puis de dire non, un gouvernement péquiste serait bon pour tout le monde. Si c'est fait comme ça de bonne foi, puis je salue ça, mais je veux pas, clairement, c'est aussi fait stratégiquement puis on dirait que j'ai de la misère à voir qu'est-ce que ça donne pour ce qui est du côté stratégique.
Moi, ça me semble être un gaspillage de ressources, là, parce que si les anglophones du Québec étaient prêts à agir comme des électeurs rationnels, c'est-à-dire de voter en fonction de leurs priorités politiques, non pas seulement pour leur langue, de manière pratiquement communautaire et identitaire, ça se saurait. Okay? Ce n'est pas un électorat qui est très, très, aux préférences politiques très, très malléable. Les anglophones votent pour le PLQ très, très majoritairement. Donc, l'intérêt, je pense qu'on va aller chercher des circonscriptions pour le PQ dans le West Island de Montréal. Mais néanmoins, ça permet quand même à Pierre Plamondon de répondre à une accusation qui est souvent faite au Parti québécois, à savoir qu'il ne tenterait pas de s'adresser aux anglophones, qu'il ne leur tendrait pas la main en quelque sorte. Bon, là, il prend la peine de leur écrire une lettre, il leur tend la main. Est-ce qu'ils seront réceptifs ou non? On verra. Je suppose fortement que non. Mais ce qui est intéressant, par contre, Max, avec cette lettre-là, c'est qu'on joue encore la carte du bon gouvernement. C'est comme si le PQ voulait essayer de faire croire aux électeurs anglophones comme anglophones que c'était pas un parti référendaire ou un parti souverainiste qui est dans les faits un parti révolutionnaire. Hein. Je veux dire, faire un pays, c'est faire une révolution au sein du Canada. Et donc là, on veut seulement se présenter comme un parti de bon gouvernement qui va être efficace, qui va régler les problèmes. D'ailleurs, tu lis cette lettre-là, Max, tu as l'impression que le Québec est quasiment au bord du précipice. Alors que c'est vrai que les choses vont pas parfaitement bien, mais je pense pas qu'on est au bord du précipice non plus. Là, c'est parfois, je trouve que le langage était assez ahurissant dans la lettre. Mais voilà, là, il y a un moment où le PQ va devoir choisir. C'est soit on est un parti de bon gouvernement, soit on est un parti compétent, ou on est un parti référendaire, mais on ne pourra pas toujours jouer les deux cartes en même temps. Idéalement, pour eux, évidemment, ils veulent rester le parti du bon gouvernement dans la campagne électorale qui vient.
L'appui à la souveraineté du Québec qui reste dans ses eaux habituelles, on est autour de 30 %. Pendant ce temps-là, chez Québec solidaire, chez ceux qui appuient QS, on est à 28 %. Fait que chez Québec solidaire, qui est supposé être un parti souverainiste, on est en bas de la moyenne québécoise pour ce qui est de l'appui à souveraineté. Est-ce que QS est vraiment dans bonne track en disant qu'on est un parti souverainiste puis que la priorité, c'est la souveraineté? Puis tu sais, des gars comme Sol Zanetti, je le crois qu'il est profondément souverainiste. Puis en fait, pour la majorité de la députation, je pense qu'on est vraiment sincèrement souverainiste. Comment ça, le message suit pas chez ceux qui veulent voter pour le parti?
Ben, deux éléments. D'abord, parce que si vous êtes vraiment à gauche au Québec, là, vous avez aucun autre parti pour lequel voter qui a une chance d'élire des députés que Québec solidaire. Donc forcément, on va chercher des électeurs plus de gauche chez qui la souveraineté est loin d'être l'enjeu prioritaire. Donc ça explique pourquoi c'est pas tous les supporters de QS qui sont souverainistes. Après, je suis d'accord avec toi au sujet de la députation. Je suis persuadé que le leadership de QS est bel et bien indépendantiste. Mais tu sais, Max, c'est qu'il y a une tension au sein du mouvement indépendantiste depuis le départ. C'est pourquoi on l'a fait, la souveraineté. Est-ce qu'on l'a fait, puis je reprends la phrase de l'évêque, parce qu'on veut que le Québec devienne un pays normal. Puis une fois qu'on sera un pays normal, bien, on s'ostinera quant à savoir si on est plus à gauche ou plus à droite. Ou au contraire, la souveraineté, on l'a fait parce qu'on veut réaliser certains objectifs et on dit que la souveraineté est nécessaire pour réaliser ces objectifs-là. Je pense que chez beaucoup de supporters de QS, c'est très fort à gauche, la souveraineté est conditionnelle. La souveraineté, si on a le bon gouvernement en place, si on va avoir la société qu'on veut par la suite, mais pas un chèque en blanc. Alors que du côté du PQ, on a tendance à vouloir la souveraineté, c'est la phrase célèbre, là, l'indépendance n'est ni de gauche ni de droite, elle est à faire.
Tu vois, moi,
c'est pas le même type de rapport.
Moi, j'aime bien la phrase de Falardeau aussi, si tu mets des conditions à la souveraineté, à l'indépendance, t'es pas un progressiste, t'es un trou de cul.
je te laisse la dire, c'est vrai que c'est une bonne phrase, celle-là.
Hey Georges, merci, un gros merci. Puis, comme je le disais un petit peu plus tôt dans le show, on va avoir la chance pour les deux prochaines semaines de t'avoir à tous les jours. Puis, on va sortir un petit peu de nos habitudes du lundi. Là, normalement, tu viens faire ta chronique internationale le lundi. Ben là, comme on a fait aujourd'hui, on va jaser des gros sujets d'actualité, qu'ils soient à l'international ou plus près de nous. Merci beaucoup, Georges.
Merci, Max. Bonne journée.
Salut, à la prochaine. Georges, merci qu'il soit avec nous à 10h40, tous les jours pour les deux prochaines semaines. Au retour de la pause, Audrey Pinchot s'amène pour l'Open Mic. Vous écoutez le Point de Max. Continuez de réagir en passant au 88 971 1021. Toujours le fun de vous lire.
Le Point de Max.